Bonjour à toutes et à tous. Christophe Jubien pour vous accueillir à bord de votre émission estivale consacrée à la vie de l'esprit. J'ai le grand bonheur de recevoir aujourd'hui un poète, un des grands poètes français contemporains, Michel Baglin, mais un poète en colère. L'objet de sa colère étant le fanatisme religieux et parfois même le fait religieux. On va voir ça ensemble. Michel Baglin, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez fait paraître il y a quelques mois aux éditions Henri un livre intitulé « Lettre d'un athée à un ami croyant ». Cet ami croyant s'appelle Jean et le premier courrier que vous lui avez adressé porte la date du jeudi 8 janvier 2015, c'est-à-dire le lendemain de l'attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo. C'est, on peut dire, l'événement qui est à l'origine de votre coup de gueule, qui est aussi un coup de cafard.
Oui, certainement, oui, parce que c'est effectivement la tristesse qui envahit d'abord et avant la colère. Cette date, elle a été pour moi en plus doublement marquante, parce que ce 7 janvier, j'étais dans le sud Aveyron à l'enterrement d'Yves Rouquette. Yves Rouquette est un poète occitan qui a d'ailleurs pour épouse Marie Rouanet, qui est également un écrivain reconnu. Et il venait de décéder. On était à son enterrement et j'avais, alors c'est un ami avec qui j'ai souvent discuté et nous, notamment du fait religieux puisque lui se disait chrétien mais chrétien buissonnier et il était effectivement assez critique par rapport à l'Église mais vraiment pétri de disons de l'esprit évangélique, si on veut. Ouais. Je suis mal placé pour en parler, étant athée, mais quand même, je crois à peu près percevoir ce que c'est. Son frère lui-même, d'ailleurs, est prêtre, puisque c'est lui qui a célébré l'enterrement. Et donc, on était à cet enterrement, et je pensais beaucoup. Et bon, lui me disait tout le temps que, finalement, il cherchait Dieu. Il n'était pas sûr de l'avoir trouvé. Il avait quand même toujours le doute en lui. Et comme il avait beaucoup d'humour, en plus, il mettait une certaine distance, sans qu'elle éteigne jamais sa ferveur. Et donc voilà, bon, j'étais à son enterrement, j'étais bien triste, parce que c'est quelqu'un avec qui je partageais beaucoup. Et on monte dans la voiture, j'étais avec mon épouse, on monte dans la voiture pour rentrer sur Toulouse, puisqu'on habite Toulouse, et à peine j'ai allumé la radio, j'ai entendu qu'il y avait eu donc un attentat à Charlie Hebdo, et j'ai entendu la déclinaison des noms des victimes, de tous les journalistes et dessinateurs de Charlie, voilà. Alors, bon, on était sidérés, bien sûr, comme tout le monde, et aussitôt, bon, on s'est dit, ben voilà, les assassins sont des gens qui étaient sûrs d'avoir trouvé Dieu. Et moi, cette espèce de, le jour même, cette opposition entre la bonté de quelqu'un qui cherchait Dieu sans être sûr de l'avoir trouvé, et la férocité, la barbarie de ceux qui étaient sûrs de l'avoir trouvé, quand même, ça faisait une espèce d'orage dans, enfin, vous voyez, c'est un temps orageux, quoi, si j'ose dire, sur la question religieuse. Et voilà, et ça m'a amené à ces réflexions, donc, que j'ai publié sous la forme de lettres. Je parle de fiction épistolaire parce que l'interlocuteur est virtuel, il n'existe pas vraiment, mais il en existe beaucoup. J'ai pas mal d'amis avec qui je dialogue souvent, des amis croyants, je veux dire, comme l'était Yves, avec qui je parle, je discute de la foi et des religions. Ouais. Et donc, bah, j'ai fait un peu une synthèse de ces interlocuteurs pour inventer ce genre qui est un interlocuteur donc virtuel et synthétique, si j'ose dire.
Ouais. Alors, ce livre, on peut le lire aussi comme un journal. C'est le journal de votre colère, parce qu'il y a évidemment le 7 janvier, puis après, il y a le 10 janvier et le massacre de l'hypercachère.
Et oui, bien sûr.
Et tout de suite, votre colère, évidemment, elle se tourne vers ces fanatiques religieux, mais elle se tourne aussi vers une partie, on va dire, de l'intelligentsia politico-médiatique qui, par, alors je ne sais pas si on lâcheté ou aveuglement, semble finalement adopter une forme de déni par
oui.
rapport à cela.
Oui, moi, c'est une des choses qui m'a... Il y a plusieurs choses qui m'ont mis en colère. L'une de ces choses, c'est effectivement le déni. Il faut pas, et le déni et cette espèce de modération qui n'en est pas une, qui consistait à dire oui, mais il faut pas jeter de l'huile sur le feu. C'est-à-dire que sous prétexte de ne pas jeter de l'huile sur le feu, on ne dénonce pas un fait Et pour moi, ce fait, cette attitude du fanatisme, disons, pour faire simple, bon, bah, c'est du fascisme ni plus ni moins. Et donc, ne pas l'appeler, ne pas le dénoncer comme tel, bon, je ne sais pas si ça relève de la lâcheté. Dans certains cas, ça relève de la lâcheté, mais je crois que le plus souvent, ça relève de la bonne intention, et l'enfer, on le sait, en est pavé. La bonne intention étant de dire attention de ne pas éveiller des réactions racistes. En l'occurrence, ça repose justement sur un amalgame que je dénonce et qui se concrétise à travers le terme d'islamophobie.
Oui, tout à fait.
Moi, je suis désolé, mais le terme islamophobe veut simplement dire qu'on est anti-islam, c'est-à-dire qu'on est contre cette religion. Mais être contre, ça veut dire quoi ? Soit ça veut dire être contre par la pensée, c'est-à-dire penser que c'est une religion qui a des défauts plus grands, plus nombreux que des vertus. J'en sais rien, c'est pas ma position. Hein. En tout, mais par contre, je ne connais pas l'islam suffisamment pour le juger. Je vois bien qu'à certaines périodes, l'islam a été tolérant. Il a permis à des juifs et à d'autres de s'installer dans l'Empire ottoman, par exemple, quand les protestants étaient persécutés ou d'autres. Donc, il a eu des moments de tolérance, mais il a aussi, c'est bien évident, des moments de grande intolérance. Donc, je ne vois pas au nom de quoi on ne jugerait pas l'islam plus que les autres religions, toutes les religions ont et peuvent être contestées, en tout cas, peuvent être mises en cause par la pensée et par l'esprit critique. Voilà, c'est tout bête, c'est tout simple, mais c'est dans le terme d'islamophobie, on refuse ça. Et ça, c'est grave. C'est-à-dire que on fait, parce qu'en fait, le racisme, il est là. D'abord, ça repose sur un amalgame. Pourquoi racisme ? Parce que islamophobie, on pense arabe. C'est ce que dénoncent les gens qui dénoncent l'islamophobie. Ils parlent de racisme. Or, ça veut dire qu'on vous... je rappelle quand même que la majorité des musulmans ne sont pas arabes et que tous les arabes ne sont pas musulmans. Il y a des chrétiens et il y a des athées. Moi, j'ai des amis arabes qui sont athées. Voilà. Et donc, cet amalgame, déjà, est quand même plus que douteux. Parce que, en fait, il consiste à ethniciser une religion ou à vouer un peuple à une religion, ce qui dans les deux cas n'est pas acceptable, quoi, et qui repose effectivement sur une forme de racisme larvé, qui dit bon ben voilà, allez, il est arabe donc il est musulman, ou on pourrait dire aussi oh ben il est blanc donc il est chrétien ou je ne sais quoi moi. Bon ben non, c'est pas ici, parce que c'est pas ça la pensée, l'univers et le respect des humains.
Ouais.
Les humains, ils ont une pensée, ils sont libres en dehors de la couleur de leur peau et de la couleur, et ils ont une foi ou ils n'en ont pas. En fait, ils ont toujours une foi pour quelque chose, mais ouais, c'est pas la couleur de la peau ou l'ethnie, enfin ce qu'on appelait jadis la race qui importe. Voilà, donc ça c'est un des points qui justifie ma colère. Je rappelle la phrase, comment, la phrase de Camus, disons c'est Brice Parrain, son ami et biographe, qui l'avait reformulé, mais c'est tout à fait son esprit. Mal nommer les choses, c'est ajouter à la misère du monde. Je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. On a beaucoup d'amalgames dans ces histoires, et on nomme mal les choses. Alors je crois souvent par paresse, hein, pas par lâcheté, ou pas par, notamment chez les journalistes. J'ai été journaliste, je sais que quelquefois la paresse l'emporte, hein, disons, il faut faire vite, et donc on va au plus court, et on ne se pose pas forcément les bonnes questions, et surtout on ne se pose pas toujours des questions. Voilà.
Ouais. Bon, Alors, j'ai remarqué donc quelque chose, que vous avez été très rapidement lucide, parce que, évidemment, vous avez participé à la manifestation qui a suivi à Toulouse, puisque je ne l'ai pas dit, mais vous êtes toulousain, donc vous avez participé au rassemblement de Toulouse après les attentats de Charlie, il y avait beaucoup de monde, vous étiez très heureux, mais en même temps, après avoir suivi à la télévision la grande manifestation de Paris, vous êtes rendu compte que parmi les manifestants, il y avait un représentant d'une organisation proche des frères musulmans, probablement l'UOIF. Or, aujourd'hui, eh bien, l'UOIF et les frères musulmans sont des interlocuteurs de l'État très fréquemment. Ils sont invités non seulement sur le plateau de télévision, mais parfois dans les ministères. Est-ce que ça, vous n'avez pas l'impression que les Français, que la France refuse de mener le combat idéologique aujourd'hui ?
Ben oui, parce que effectivement, je ne sais pas si les bombes que la coalition Perse et sur Daesh finiront par éteindre l'incendie. Pour l'instant, je sais qu'il y a aussi des innocents dessous. Je ne suis pas contre, hein, mais bon, il y a de quoi se poser des questions. Par ailleurs, bon, l'état d'urgence, effectivement, était sans doute nécessaire, mais il peut pas durer. En revanche, où j'aimerais, moi, qu'on se batte, c'est justement sur le domaine, dans le domaine de l'idéologie, parce que c'est là où est tout le problème. Hein. Je crois qu'il y a quelques notions très simples. Le respect, ben, le respect, voilà, il est, je crois tout simplement que le respect est dû aux personnes, oui, quelles que soient leurs idées, leurs croyances, mais il n'est pas lié, justement, il n'est pas dû, pardon, à leur foi, à leur croyance, à leur vision du monde, à leurs utopies, fussent-elles les plus généreuses, hein, mais on n'est pas obligé de respecter, moi, je sais pas, mais j'ai des amis communistes qui étaient sincères, mais je ne respecte pas nécessairement leurs opinions, et j'ai tout à fait le droit de les critiquer. Et de même, c'est un peu la position que je prends par rapport à toutes les religions, puisque je suis aussi critique par rapport aux chrétiens, quels qu'ils soient, enfin pas quels qu'ils soient, mais aux chrétiens, justement, aux chrétiens, par rapport aux chrétiens intégristes, aux catholiques intégristes, pardon, mais également aux juifs orthodoxes qui prônent le grand Israël et la politique qui va avec, qui consiste, bon, à écraser, à nier les droits des Palestiniens. Tout ça, c'est un ensemble qui est très dangereux pour le monde dans lequel on vit, c'est évident, hein, je ne fais qu'enfoncer une porte ouverte, puisque ce monde est à feu et à sang, et il est à feu et à sang en partie, alors là, ça c'est peut-être pas d'accord, mais en partie, à cause des religions, ou du moins d'une lecture des religions et du fait religieux, parce qu'on parle toujours, on dit une exploitation de la religion, une exploitation politique. Certes, mais est-ce qu'il n'est pas normal que les religions soient aussi exploitées politiquement, dans la mesure où les religions ont la prétention quand même de gérer plus ou moins la vie des humains, leurs valeurs, et puis leur l'organisation même de leur vie, du vivre ensemble, et aussi au niveau individuel de leur vie personnelle. Donc bon, évidemment, tout ça c'est du politique au sens profond du terme, le vivre ensemble et la manière de s'organiser. Donc effectivement, mais la religion n'est pas que ça. Ce dont je parle dans ce livre, en prenant un peu des positions datées, mais en disant bien que ces positions datées ne valent a priori pas plus que la position du croyant. À partir du moment où on est dans le respect de l'autre et de la personne, voilà, la ligne de fracture, pour moi, ne passe pas entre athée et croyant, mais entre, d'un côté, athée et croyant tolérant, et de l'autre, les intolérants, de quelque religion qu'ils soient. Voilà. Ouais.
Alors, à l'appui de vos dires, vous citez de nombreux auteurs arabes.
Oui, bien sûr.
Je pense notamment à Kamel Daoud, à Abdel Wahab Medeb, qui est mort il y a peu de temps et qui a été un farouche adversaire de l'islamisme, mais aussi un poète, hein,
oui,
n'oublions pas.
Oui.
Et en citant Kamel Daoud, vous dites, c'est Kamel Daoud qui le dit, on ne pourra éradiquer l'islamisme sans réformer l'islam. C'est-à-dire que pour Kamel Daoud, comme pour vous, il y a une réforme de la religion à faire, comme peut-être l'Église ou la religion catholique l'a fait sous la férule, on va dire, de la République, finalement.
C'est... Oui, bien sûr. Déjà, bon, il y a la notion de laïcité, elle est simple. Et je pense que, bon, moi, l'essentiel de mon livre, c'est la défense de la laïcité, bien sûr. Alors, là encore, on enfonce des portes ouvertes, tout le monde défend la laïcité, mais la laïcité, c'est d'une grande simplicité, mais continuellement, elle est remise en cause pour des choses très simples. Notamment, par exemple, le blasphème. Je prends cet exemple. Parce que, bon, la laïcité, c'est le droit de chacun de croire ou de ne pas croire, et de croire à ce qu'il veut, à condition qu'il respecte les autres et qu'il n'entrave pas leur propre liberté. Voilà, bon, ça va, c'est vraiment, je dirais, la règle de base du vivre ensemble et de la tolérance, et de la possibilité de vivre comme beaucoup de civilisations, d'ailleurs, ont pu faire se côtoyer sans problème et pendant de longues périodes, des religions différentes, ou même, plus rarement, mais des athées avec des croyants. Ça peut paraître simple et d'évidence, mais malheureusement, on le sait bien. Bon, alors, l'islam aujourd'hui est vraiment l'exemple même d'une partie de l'islam, de ce refus de la laïcité. Alors, même quand on a affaire à des gens qui sont modérés, je pense à Boubacar, ou bon, qui sont effectivement certainement des croyants pleins de bonne volonté. Il n'empêche que Ils ont demandé l'interdiction de Charlie Hebdo avant ces événements. Ouais. Ils avaient demandé l'interdiction de Charlie Hebdo parce que, en raison du blasphème.
Oui, on a tendance à oublier cette première période qui a été l'affaire des caricatures
oui.
Mahomet. Charlie Hebdo s'était déjà attiré les foudres, y compris de musulmans, comme vous le dites, hein, comme Dalil Boubaker, des gens supposés modérés.
C'est ça, c'est pour ça qu'ils sont modérés. Il n'empêche qu'ils demandent l'interdiction de critiquer leur religion, leur foi ou leur utopie, peu importe. Mais ils demandent cette interdiction-là. C'est ça, si on commence là, enfin, je veux dire, je suis désolé, mais c'est le début du totalitarisme. C'est le ferment même. Et alors, j'ai été très déçu par le pape, parce que, effectivement, après les attentats, le pape avait prononcé une formule qui était vraiment tout à fait, enfin, qui était vraiment le fondement, l'esprit même de la laïcité, où il disait, en gros, je l'ai plus sous les yeux, mais en gros, il disait que la liberté de penser, d'expression, mais de penser, c'est la même chose, la liberté de penser est aussi importante que la liberté de culte. Quand il a dit ça, je me suis dit, c'est formidable. On a là vraiment, seulement le lendemain, il disait, oui, mais si vous insultez ma religion, ou si vous insultez ma mère, je... Là encore, je n'ai plus la formule exacte, mais j'ai le droit de me défendre et en gros de donner un coup de poing à celui qui insulte ma mère ou quelque chose comme ça. Et alors cette notion d'insulte, ça rejoint encore la notion de blasphème, c'est-à-dire que non, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais attention, vous n'avez pas le droit de critiquer, vous n'avez pas le droit de... Alors moi, je suis désolé, mais si on n'a pas le droit de critiquer une pensée ou une foi, on n'est plus dans la laïcité, on n'est plus dans la démocratie même. Ouais. Alors bien sûr, il y a, et c'est ce dont je discute souvent avec mes amis croyants, c'est que bon, je comprends que certains dessins, que certaines choses, que certains propos puissent être blessants. Et moi, j'ai vraiment absolument pas envie de blesser qui que ce soit. Ouais. Mais si je n'ai pas envie de blesser quelqu'un, je n'ai pas non plus envie de renier ma propre vision du monde et mon esprit critique. Et donc, voilà, par exemple, moi je sais que, bon, j'ai lu l'Ancien Testament, je suis sidéré par beaucoup de passages de l'Ancien Testament. Je ne peux pas les accepter, pour moi c'est inacceptable. Abraham qui, pour complaire à son maître, accepte de sacrifier son fils, pour moi c'est une image extrêmement négative. De l'humain, ouais. De l'homme.
La différence entre l'Ancien Testament et le Coran étant que peut-être tout de même l'Ancien Testament, ou la Torah en tout cas, s'attire des commentaires à l'infini dans la tradition rabbinique, alors que le Coran, c'est une parole descendue du ciel, on n'a pas le droit d'y toucher. C'est peut-être là la différence, non ?
Là, c'est ce qui sans doute explique le fait que l'islam soit aujourd'hui quand même porteur de violence à ce point, c'est que lui ne suscite pas le commentaire, il l'interdit. On peut pas dire que ça soit un pas vers la tolérance, quoi. Et donc, et non plus vers l'esprit critique, évidemment.
Et cependant, des théologiens musulmans, je pense à Galab Benchir et d'autres, souhaiteraient justement une réforme de l'islam. Il faut pas non plus oublier de le dire.
Oui. Alors, la réforme de l'islam. Bon, moi, je pense que elle se fera et inévitablement, comme elle s'est faite pour le christianisme, pour les catholiques, elle se fera. Mais pour l'instant, il y a des forces. Alors pour d'autres raisons aussi, hein, mais il y a quand même des forces qui freinent cette. Et puis alors il y a aussi cet esprit. Moi, ce qui m'inquiète un peu, cet esprit de pseudo fraternité qui n'en est pas une. C'est-à-dire en fait. On parle volontiers de frères en religion, comme on parle de frères de combat, comme d'autres parlaient de frères de race, comme d'autres parlaient de... Eh ben non, moi je crois que la fraternité, elle est universelle, ou elle n'est pas. Et ça, c'est le message quand même du christianisme, et je lui reconnais cette grandeur. Et je pense que, bon, il faut absolument que les religions évitent le communautarisme, parce que le communautarisme... C'est la guerre. Le racisme n'étant jamais qu'une déclinaison du communautarisme. Mais le communautarisme, c'est la guerre. Et le fléau majuscule, quoi, qui dresse les groupes humains les uns contre les autres. Mais heureusement, il y a dans les religions, et singulièrement dans le christianisme, un appel à l'universalisme qui contrebalance cette tendance. Mais cette tendance, elle est quand même là, je crois. Elle est profonde. Parce que la religion, elle fédère, elle crée autour d'elle de la solidarité, de la fraternité, si on veut. Mais comme tout groupe humain, surtout des groupes humains qui, dans l'histoire, ont été menacés, mais il faut pas qu'elle se raccordisse, cette fraternité. Voilà. Et ça, c'est un des points importants. Or, si l'islam ne se réforme pas, l'islam est porteur aussi de l'humiliation, du colonialisme, d'un certain nombre de choses qui se retrouvent aujourd'hui chez les jeunes, on le voit bien, chez les jeunes de banlieue qui ont un problème identitaire et qui cherchent une solution dans la radicalité. Mais bon, est-ce qu'il y a une solution dans la radicalité à part la mort la mort et le suicide, quoi. Ouais.
Alors, vous êtes, vous, un homme de gauche assumé, mais page 71, je vous lis, « J'éprouve de plus en plus le sentiment que la bien-pensance est à la gauche ce que l'ordre moral fut longtemps à la droite en la consacrant la plus bête du monde, le moyen de s'épargner toute réflexion et de préserver néanmoins sa bonne conscience, dites-vous. »
Oui, ça, je crois que c'est un des fléaux de notre temps, mais... j'ai souvent eu effectivement un type d'échange où avec des gens de gauche et des extrêmes gauches où dès que l'on critique l'islam, on est traité de facho ou en tout cas de raciste. Alors bon, moi ça fait 40 ans que je manifestais contre le racisme. Je pense que bon là les gens me connaissent, ils peuvent pas m'accuser de ça, mais n'empêche que c'est une espèce de réflexe, je dirais, bête de gens qui se réfugient dans la posture. Et aujourd'hui, à gauche, pas mal de gens, comme à droite, on a eu, et comme il y a toujours, mais la droite, ça a été à une époque l'ordre moral qui était son refuge, sa posture de refuge contre la réflexion, contre l'esprit critique et contre les critiques, tout simplement. Aujourd'hui, c'est la bien-pensance. Voilà, on a des bien-pensants là qui sont des champions de l'amalgame en général. Hein. Justement, l'amalgame dont je parlais tout à l'heure, islamophobie, racisme, par exemple. Alors que plein de penseurs du monde musulman ou plein de penseurs arabes disent tout le temps, répètent, n'employez pas le mot d'islamophobie puisque c'est un terme inventé par les frères musulmans, c'est-à-dire par des fascistes, parce que moi j'appelle ça des fascistes, les gens qui ont tué, qui continuent à produire, qui d'ailleurs, rappelons-le, Al-Banna, le fondateur des frères musulmans, était un grand admirateur d'Hitler. Il faut quand même pas l'oublier, quoi. Ouais. Donc, oui, effectivement, la bonne conscience, moi, il n'y a rien de pire que les gens qui ont bonne conscience, qu'ils soient croyants athées, qu'ils soient de gauche ou de droite, mais les gens qui sont persuadés d'avoir la vérité, de détenir la vérité, et surtout, ça me fait penser, je relisais récemment ce beau roman de Graham Greene, La puissance et la gloire, qui raconte l'histoire de ce prêtre au Mexique à l'époque où la dictature oppressait et interdisait la religion, les catholiques, ce prêtre qui se sent lui, parce qu'il a bu, parce qu'il est ivrogne, parce que enfin bon, il a beaucoup péché. Moi, je le mets entre guillemets, puisque pour moi ça n'a pas grand sens. Mais bon, lui se sent indigne de tout, et pourtant il n'arrête pas de risquer. Il finit par sacrifier sa vie pour aller rendre les derniers sacrements à un bandit qui est mourant, et puis continuellement il joue sa vie pour rendre service. Et donc lui il est à côté et il parle de ces femmes, de ces bigotes qui sont là, qui viennent le voir et qui elles ont bonne conscience, qui sont persuadées d'être dans le vrai. Et ils se demandent quand même, c'est le seul moment où ils se demandent si son indignité est plus grande que la leur, quoi. Et je pense que, bon, voilà, voilà, la posture et la bonne conscience de certaines personnes de gauche m'effraient.
Ouais. Alors, il nous reste une petite minute. Je voulais savoir comment ce livre a été reçu. Il est sorti en mois de février, je crois. Je sais que vous êtes allé, si j'ose dire entre guillemets, le défendre à l'Institut catholique de Toulouse. En tout cas, c'est plutôt une invitation, je crois, qui vous a été faite. de vous exprimer sur ce livre là-bas, ça s'est bien passé?
Ouais, très très bien. Ouais. C'est une invitation que m'a fait l'institut et on a discuté beaucoup et j'étais très 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 touché par certaines choses. Ce que moi j'ai été élevé avec Brassens, c'est l'esprit de Brassens. C'est Brassens se disait en fin de compte si Dieu existe, il voit que je ne me comporte guère plus mal que si j'avais la foi. Et bon là j'ai aimé un des échanges de, là que l'on a eu, c'est justement une personne croyante et je, pas militante mais croyante avec ferveur, me dire oui mais il est des athées qui sont plus, parce que moi j'ai pas la foi donc hein, bien sûr, et mais je me sens proche des valeurs chrétiennes et il me dit mais il y a des athées qui sont plus chrétiens que certains croyants, et bon c'est une formule que je n'avais pas envisagée mais qui m'a beaucoup plu parce que je crois qu'elle correspond à quelque chose quoi. Quelque chose de vrai.
Et dans le monde de la poésie, vous êtes avant toute chose évidemment poète, quel était le regard des poètes sur votre livre?
Ben, il est plutôt bien reçu pour l'instant. J'ai très peu de. Oui, il est bien reçu d'une manière générale. Bon, parce que je crois quand même que c'est aussi une façon de. C'est une façon. Je revendique l'athéisme. Je crois même que ça peut être une chance, mais en même temps, je voudrais s'il y a des frontières ou des barrages entre athées et croyants, je parle toujours de croyants tolérants, ben je souhaite les effacer le plus possible, lancer des passerelles, et je crois qu'elles y sont d'ailleurs, naturellement, et athées et croyants parlent souvent, enfin, non seulement parlent, mais sont amis, enfin voilà. Mais, c'est important de le dire aussi, enfin de l'écrire, et de le formuler comme ça. Et, voilà.
Michel Blaglin, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Lettre d'un athée à un ami croyant. Il y a aussi de super dessins de Jean-Michel Delambre, des dessins humoristiques sur la religion qui valent vraiment le coup d'œil. Hein.
Oui, alors Jean-Michel Delambre, il faut le rappeler, c'est un poète, mais c'est un dessinateur. Et dessinateur au Canard Enchaîné et à Charlie Hebdo. Donc ouais. il était vraiment concerné quoi, voilà, et donc il a fait des dessins qui me plaisent beaucoup. Et juste par rapport à la, juste pour finir, je pense à une chose par rapport à la poésie, c'est, pour moi c'est quelque chose qui reste ouvert, une interrogation, mais Adonis, le grand poète syrien, Adonis, est très très, alors lui il est très très remonté contre les islamistes mais aussi contre la religiosité et l'islam même, hein. Et il dit quelque part, je le cite dans mon livre, parce que je cite beaucoup d'écrivains comme Boualem Sansal ou d'autres, il dit, on dit tout le temps, on parle dans, les orientalistes parlent de poètes musulmans, mais non, dit-il, hein, c'est pas moi qui le dis, moi je n'ai pas la connaissance suffisante pour affirmer des choses pareilles, mais il dit non, il n'y a pas de poètes musulmans, les poètes arabes ou perses, les poètes ont été rejetés par l'islam. L'islam rejette les poètes.
Michel Blaglin, excusez-moi, on arrive vraiment au terme de cette émission.
Merci beaucoup, en tout cas.
Il me faut conclure, je rappelle donc, Lettre d'un athée à un ami croyant, c'est aux éditions Henri. Merci beaucoup.
Merci, bonne soirée.
Voilà, ce premier volet de la vie de l'esprit s'achève. Vous retrouverez cette émission tout au long de l'été. Mon prochain invité sera le père Noël Tanazak, père orthodoxe, qui nous parlera d'une grande figure de l'orthodoxie russo-française du XXe siècle, Eugraph Kovalevski. À très bientôt.